Chapitre 42. Zen. Rester zen à tout prix. Une fois seul, Paul s'approcha de la table et observa le paquet de feuilles format A4 au papier légèrement jauni. Des pages manuscrites. L'écriture était fine, serrée, l'encre noire. Sans aucun doute la même que celle du carnet, celle de l'amant de Julie. Sur la page du dessus, en bas à droite, un numéro. 495. Et sur la précédente, des lettres entourées à l'encre bleue cette fois. Esquimet s'apprêtait à envoyer un nouveau message à Corinne. En attendant l'arrivée des autres, il parcourut les pièces par sécurité. Dans la cuisine, le réfrigérateur était branché avec de la nourriture à l'intérieur. Pas de télé ni d'ordinateur dans le salon. Un nécessaire de toilette dans la salle de bain, mais le strict minimum. Au bout du couloir, les deux chambres sentaient le renfermé, mais étaient propres, les lits faits. Gabriel devina qu'Esquimet avait dormi dans l'une d'elles peu de temps auparavant, celle avec la croix accrochée au-dessus de la tête de lit, à cause des draps fourrés dans un sac à linge. Dans le placard traînaient des vêtements, vieux jeans, survêtements, surchemises à carreaux. Il s'attarda sur le cadre ornant la table de nuit, la seule touche personnelle de la pièce. Une femme blonde, la trentaine. Un air de ressemblance. Sa mère, très certainement. Paul ne savait toujours pas si ce chalet appartenait à David Esquimet, s'il l'avait racheté, s'il s'agissait d'une résidence secondaire de son père récupérée par héritage, ni qui avait donné rendez-vous à Julie ici, durant l'été 2007. Il revint dans le séjour au moment où Cédric Daméus, Benjamin Martini et un brigadier d'une trentaine d'années en franchissaient le seuil. « Où est ma fille ?» demanda-t-il.
« Brunet s'occupe d'elle, » répliqua Martini. « Elle est effondrée. On n'a pas bien compris. Qu'est-ce qui se passe ?»«
Il se passe que le suicidé est probablement David Esquimet. »«
Le David Esquimet des pompes funèbres ?»«
Lui-même. Et de toute évidence, il est aussi notre corbeau. » Les hommes se regardèrent interloqués. Une fois la nouvelle encaissée, Paul demanda à l'adjudant de se charger des procédures judiciaires et au brigadier Julien Berger de commencer à relever des éléments susceptibles de les intéresser. Sous les ordres de Martini, qui consignait chaque fait, Daméus préleva les empreintes sur la poignée de porte intérieure et extérieure, puis se focalisa sur les objets présents sur la table. Il posa trois cavaliers jaunes numérotés, un devant les feuilles, un devant l'enveloppe, un autre devant le stylo, prit des photos, emballa le stylo, puis scella méticuleusement la page du dessus dans un film transparent pour préserver les traces papillaires éventuelles. Pendant ce temps, le capitaine scrutait la bibliothèque. Rapidement, il identifia les romans policiers qui étaient en large majorité. Combien y en avait-il ? Des milliers ? Pourtant, jamais Paul n'avait croisé Esquimet avec un livre à la main. En aucune circonstance, le petit ami de sa fille n'avait fait la moindre allusion à son goût pour la lecture, et pour cet univers en particulier. Il avait sacrément bien caché son jeu. Les œuvres étaient classées par nom d'auteur et selon l'ordre alphabétique. Il se décala. Lettre L, Maurice Leblanc. Tira à lui l'aiguille creuse. La couverture montrait Arsène Lupin, le visage grave, qui observait un code secret noté sur un morceau de parchemin. Il feuilleta jusqu'à la page 187, celle que Corinne avait reçue par la poste. Elle était manquante. Tout comme la 112 de Diptynègre, dénichée plus loin, au milieu de l'impressionnante collection de livres d'Agatha Christie. David Esquimet avait donc officié ici. Dans cette pièce, il avait préparé ses courriers anonymes pour ensuite les poster dans des villes lointaines. Et en parallèle, il couchait avec Louise. Quoi de mieux qu'un loup dans une bergerie pour obtenir des informations sur l'évolution de l'affaire? Il s'était servi d'elle. Il ne l'avait jamais aimée. Rien à foutre de ta fille.
Capitaine !
Daméus et Martini firent signe à Paul de venir. Le technicien lui tendit la page sous sa protection en plastique.
Si on met bout à bout les lettres entourées du nouveau message, on obtient « Ce livre apporte la réponse à toutes vos... » Je suppose qu'il comptait écrire question.
Bizarre qu'il ne soit pas allé au bout de sa phrase, s'étonna l'adjudant. Pourquoi s'arrêter au milieu d'un mot ?
Il doit y en avoir des bizarreries qui traversent la tête d'un type prêt à se fracasser sur des rochers. Page 494, qu'est-ce que c'est ?
Un extrait de manuscrit ?
Daméus acquiesça. L'avant-dernière page, oui. semble-t-il. Un dénouement sur les falaises d'Étretat, pas loin de la célèbre aiguille.
L'aiguille creuse, marmonna Paul.
On a ici 15 pages rédigées à la main, numérotées de 481 à 495. La fin d'une histoire.
Toutes les autres pages doivent se trouver dans cette baraque.
Paul parcourut en vitesse ces quelques feuillets. Il y découvrit un mot souligné en noir, vraisemblablement par l'auteur lui-même, Xanax, un des palindromes peints sur le mur de la centrale. Il reposa le paquet, dubitatif.
Pensa au pendentif en forme de livre de Julie. Le mystérieux amant était l'auteur de ses écrits. Était-il en rapport avec le milieu littéraire? Un écrivain? Il lut avec attention les deux dernières pages. L'ambiance, les descriptions et le dénouement particulièrement tragiques. Ça avait tout l'air d'un roman policier.
Un original qu'Esquimet avait en sa possession.
Peut-être caché dans cette maison. Ce livre apporte la réponse à toutes vos questions.
Le brigadier Berger appela de l'extérieur. Paul demanda à Daméus de poursuivre son travail dans la maison et, accompagné de Martini, se précipita vers la remise dont la porte était ouverte. Berger se tenait devant le patchwork de clichés sur le rectangle de Liège. Paul fit mine de tout découvrir, tira des conclusions à voix haute, exigea de son brigadier qu'il photographie l'ensemble avant de tout décrocher. Il ausculta également l'album des photos de cadavres. Martini, à ses côtés, semblait écœuré.
Photographier des morts, quel malade.
On l'embarque, décida-t-il en collant l'album entre les mains de son adjudant. Et pas la peine de faire les empreintes ici. On a assez de matos pour prouver qu'Esquimet était notre corbeau. Ce que je veux maintenant, c'est la confirmation que cette propriété lui appartient.
Martini acquiesça sans rechigner.
Paul était sur le point de sortir, mais Berger lui lança.
Elle était punaisée sous un article de journal,
expliqua son brigadier en lui tendant une photo.
Paul la regarda attentivement. Une dizaine d'infirmières posaient devant les urgences de l'hôpital de Saga. L'une d'entre elles tenait une ardoise sur laquelle était noté juin 1989. Esquimet s'était acharné sur la femme la plus à gauche. Elle avait le visage tellement gribouillé qu'il se résumait à un trou dans le rectangle de papier glacé. « Les identités sont notées derrière », murmura le jeune berger. À ce moment-là, Paul sentit sa gorge se nouer. Il retourna le cliché et crut qu'il allait manquer d'oxygène. L'un des noms de la liste était entouré en rouge. Le numéro qui lui était attribué correspondait à l'infirmière à la face trouée, Corinne Jourdain. Le nom de jeune fille de sa femme.